Oh, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Jouissez sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons sur le polycopier des chapitres 16 à 20 de Saint Matthieu. Nous en sommes à la page 31, en haut de la page. Saint Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 26. Nous allons peut-être aujourd'hui terminer le chapitre 19. Petit à petit, nous avançons dans ce bel évangile de Saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Ils disaient, « Qui donc pourra être sauvé ?» Et Jésus, les regardant, leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Nous allons voir que notre Seigneur Jésus-Christ ne condamne pas en soi le fait d'être riche. Notre Seigneur avait d'ailleurs un ami qu'il aimait tout particulièrement, lui et sa famille, c'était Saint Lazare, qui avait une certaine aisance financière, manifestement. Il y a eu des saints qui ont eu une certaine aisance financière également. Il y a eu des saints rois, par exemple, qui vivaient dans un certain luxe royal. Et ils ont quand même été canonisés par l'Église. Donc il est possible en soi d'être riche et de rester en état de grâce. Mais c'est quelque chose de difficile. Ce qu'il faudrait, c'est évidemment arriver à posséder les richesses sans les aimer. Mais c'est pratiquement impossible. Quand on possède les richesses, on a tendance à les aimer. Le plus sûr donc, c'est de ne pas les avoir, de ne pas les aimer. C'est pour cela que l'Église a toujours demander à ces religieux, ces ministres, d'avoir au moins l'esprit de pauvreté, même pour les moines, le vœu de pauvreté, afin de bien lutter contre la concupiscence des yeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les richesses ouvrent à la concupiscence des yeux. Plus je suis riche, plus j'ai de désirs. Pas forcément des désirs mauvais, d'ailleurs, mais il faut comprendre que lorsqu'on suit notre Seigneur Jésus-Christ, la première étape, c'est toujours d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Si on aime les choses de ce monde, eh bien, on aimera ce qui est à la base des choses de ce monde, à savoir les trois concupiscences. On sera attiré par les trois concupiscences. On a déjà suffisamment de tentations comme ça qui viennent toutes seules. C'est pas la peine d'aller en chercher. Et quand on a trop d'argent, évidemment, on a beaucoup plus de tentations que quand on n'a pas d'argent. Ceci dit, il faut un minimum, c'est certain. C'est un peu un problème aussi. Les gens qui n'ont rien du tout et qui manquent du minimum. C'est évident que si on manque du minimum, eh bien on peut tomber dans le découragement, on peut tomber dans le désespoir, et ça, c'est pas bon non plus. Donc un homme, surtout un homme marié, doit travailler dur pour pouvoir arriver à nourrir sa femme, nourrir ses enfants. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est pas de sa faute. Mais voyons un petit peu ce que disent les pères sur cet amour des richesses. Ce n'est point un crime d'avoir des richesses, mais il faut les posséder avec modération. Il y a une grande différence entre posséder les richesses et aimer les richesses. Je viens d'expliquer. Or, le plus sûr est de ne pas les avoir, de ne pas les aimer. Ainsi, le Seigneur, expliquant lui-même dans Saint Marc le sens de ce passage, déclare qu'il est difficile à ceux qui mettent leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où est notre amour, là nous plaçons notre cœur. Si on aime les richesses, notre cœur sera au milieu des richesses. Et si notre cœur est au milieu des richesses, eh bien nous aurons le désir d'en avoir chaque jour davantage. Si notre cœur est au milieu des richesses, les richesses vont prendre par la force des choses de plus en plus de place dans notre âme, et conséquemment, il y aura de moins en moins de place dans notre âme pour le bon Dieu. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et ce n'est pas un péché, encore une fois, d'avoir certaines choses du monde, surtout pour ceux qui ont le droit de les avoir, mais il faut quand même faire très attention en comprenant bien que plus notre âme est remplie de choses matérielles, moins il y a de place pour le bon Dieu. Et quand il n'y a plus de place pour le bon Dieu, ben le bon Dieu s'en va, tout simplement. Parce que le bon Dieu n'accepte pas de partager sa gloire avec des créatures. C'est une chose pleine de dangers, disent les pères, que de vouloir s'enrichir. Et l'innocence qui cherche à accroître ses richesses se charge d'un lourd fardeau. Dans le service de Dieu, on ne peut acquérir des biens du monde sans s'exposer à contracter les vices du monde. Parce qu'encore une fois, ces richesses nous amènent à toutes les concupiscences. Il n'est pas possible d'avoir trop de richesses sans avoir de plus en plus de tentations qui viennent des trois concupiscences, surtout la concupiscence des yeux, et en conséquence, surtout pour les hommes, la concupiscence de la chair. Et donc, on ne peut acquérir les biens du monde sans s'exposer à contracter les vices du monde, et c'est ce qui rend difficile aux riches l'entrée du royaume des cieux. Alors attention, il ne faut pas tomber non plus dans le piège qui consiste à agonir les riches d'injures. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a eu, encore une fois, je vous l'ai dit, n'a jamais en soi condamné les richesses. Donc, ce serait faux de dire que l'Église catholique n'est que l'Église des pauvres. L'Église catholique, c'est l'Église de tout le monde, tous ceux qui cherchent Dieu, les riches et les pauvres. Mais c'est sûr que les très riches ont plus de mal de suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce que, évidemment, ils ont plus de fil à la patte que les pauvres. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, va parler de. Il va comparer les riches à un chameau qui ne peut entrer par le trou d'une aiguille. Bon, certes, il y avait à Jérusalem une porte qui était assez basse et il fallait que, pour que les caravanes puissent passer par cette porte, ben, il fallait enlever d'abord les chargements sur le dos des dromadaires et des chameaux, et le chameau devait pratiquement tomber sur ses genoux pour pouvoir passer cette porte qui était tellement était petite et basse de plafond, basse d'ouverture. Nous lisons dans le prophète Isaïe, en chapitre 25, comment les chameaux de Madian et d'Épha se rendent à Jérusalem chargés de dons et de présents, et comment ceux qui étaient courbés, contournés sous le poids des vices, entrent par la porte de cette cité. Nous comprendrons comment ces chameaux qui sont la figure des riches pourront entrer par la voie étroite et resserrée qui conduit à la vie après s'être déchargés du poids si lourd de leur péché, de toute la dépravation des sens. C'est-à-dire que de même que le chameau ne pouvait pas passer par cette porte de l'aiguille sans se décharger de tout ce qu'il avait sur le dos, de la même façon, un homme qui est chargé des péchés du monde, qui est des richesses du monde, de tous ces péchés en général, ne peut pas se présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ sans d'abord s'être déchargé de ce poids qui l'encombre et sans avoir ouvert les portes de son âme à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession. Donc les âmes des païens, disent les pères, sont comparées ici à des chameaux mal conformés qui sont courbés sous la bosse de l'idolâtrie, car c'est la connaissance de Dieu qui relève les âmes. Donc, rappelez-vous la conversion de Charles de Foucault, qui s'est converti au moment précis où il a accepté de s'agenouiller devant le prêtre pour se confesser. Et il disait, le moment précis où Mes genoux ont touché le bois de la genouilloire du confessionnal. À cet instant précis, j'ai retrouvé la foi. La foi, on ne travaille pas avec les richesses. Et plus on a de richesses, plus il est difficile de conserver cette foi. C'est ça le drame des richesses, c'est que plus on en a, plus on en veut. Et donc, les richesses, la concupiscence des yeux, vont détruire la vertu de charité. On aura du mal à donner aux pauvres, à donner à ceux qui n'ont rien, qui manquent, parce que précisément, on veut toujours davantage. Donc, l'unique façon de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est commencer à se décharger du poids des trois concupiscences, notamment la concupiscence des yeux. Alors, les pères de l'Église expliquent le symbole de l'aiguille. Rappelez-vous le texte. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà ce que disent les pères, c'est intéressant. L'aiguille, c'est le Fils de Dieu, dont la première partie, celle qui représente sa divinité, est d'une finesse extrême, tandis que l'autre partie, qui figure son humanité, est beaucoup moins aiguisée. Pardon. Or, cette aiguille, dans toute sa longueur, est droite et ne présente aucune déviation. Et c'est par la blessure faite pendant la passion que les gentils sont entrés dans la vie éternelle. Car cette aiguille, c'est cette aiguille qui a cousu la tunique de l'immortalité, qui a cousu et uni la chair à l'esprit. C'est elle qui a uni le peuple juif au peuple des gentils, qui a établi des liens étroits entre les anges et les hommes. Donc, l'aiguille qui blesse, qui ouvre le passage, même qu'un muscle, si vous voulez, s'ouvre devant la pointe de l'église, de l'aiguille, dans une piqûre par exemple, donc la partie pointue de l'aiguille va rentrer facilement dans la chair, dans les muscles, qui vont s'écarter pour laisser passage aux produits qu'on veut injecter avec l'aiguille. Eh bien, cette aiguille, c'est le symbole de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, jointe à son humanité. Donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ fait pénétrer un produit, un médicament quelconque dans une âme, un médicament spirituel, mais il faut commencer par blesser un petit peu cette âme. Lorsqu'on fait pénétrer une aiguille, même si l'infirmière sait ce qu'elle fait, lorsqu'on fait pénétrer une aiguille d'une piqûre, d'une seringue dans un muscle, eh bien ça fait mal. Mais une fois que le muscle est percé, traversé par l'aiguille, à ce moment-là, l'infirmière peut injecter dans le muscle le produit qui est nécessaire. Et du coup, on va pouvoir guérir de notre maladie ou enlever une grande partie des souffrances que nous supportons par l'intermédiaire de l'aiguille. Donc cette aiguille, apparemment, semble très peu de choses. Donc de même que notre Seigneur Jésus-Christ semble très peu de choses quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ apparaître en ce monde dans la crèche de Bethléem sous la forme d'un petit enfant de tout petit tout petit, eh bien on peut se demander mais comment cet enfant tout petit, aussi minuscule qu'il soit, comment cet enfant peut-il sauver le monde? Eh bien cette aiguille, nous disent les pères, c'est elle qui va réunir la chair à l'esprit. Donc il va unir le peuple juif au peuple des gentils, de la même façon qu'une couturière utilise une aiguille pour amener le fil qui va percer les deux tissus et permettre la couture. Sans l'aiguille, il n'y a pas de couture possible. Donc il est plus facile aux gentils de passer par le trou de l'aiguille qu'aux juifs qui se croient riches d'entrer dans le royaume des cieux. Car si l'on ne peut arracher les gentils qu'avec peine au culte insensé des idoles, combien sera-t-il plus difficile de détacher les juifs des cérémonies du culte du vrai Dieu, cérémonies si conformes à la raison? On voit très bien dans l'Ancien Testament comment le peuple juif a cette tendance constante à l'idolâtrie. Dès que Moïse a le dos tourné, dès que Aaron a le dos tourné, tout de suite, eh bien les juifs vont se mettre à adorer des créatures, adorer les faux dieux, les tribus qu'ils traversaient. Donc, en bas de la page 31, donc vous avez ce passage que je viens d'expliquer, je vous le redonne avec les termes utilisés par les pères qui sont bien meilleurs que les miens. On donne encore cette autre explication: qu'il y avait à Jérusalem une porte qu'on appelait le trou de l'aiguille et par laquelle un chameau ne pouvait passer qu'après avoir déposé son fardeau et plié les genoux. C'était le symbole de cette vérité que les riches ne peuvent entrer dans la voie étroite qui conduit à la vie qu'après s'être déchargés des souillures de leurs péchés et de leurs richesses, en cessant du moins de les aimer. Ou bien, sous ce nom de riche, notre Seigneur veut que nous entendions tout homme orgueilleux et sous celui de chameau ses humiliations personnelles. Et on voit bien que ces richesses empêchent la personne de rentrer par la porte qui mène à l'église. Donc elle reste dehors tant qu'elle ne veut pas se décharger de ses richesses. Et ce chameau qui est obligé pour, après avoir déposé son fardeau, de plier les genoux, représente la vertu d'humilité. Sans vertu d'humilité, eh bien, l'orgueil reste sur le chameau, c'est-à-dire sur notre âme, et du coup, rien ne peut être fait. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut rien faire avec cette âme parce qu'elle est trop pleine d'orgueil. Les pères expliquent, donc en bas de la page 31, donc j'ai un très beau passage des pères sur ce sujet. Le chameau passe par le trou de l'aiguille lorsque notre Rédempteur a pénétré jusqu'à la mort par la porte étroite et resserrée de ses souffrances. Souffrances qui ont été pour lui comme une aiguille parce qu'elles ont transpercé son cœur de douleur. Or, le chameau passe par le trou d'une aiguille plus facilement que le riche n'entre dans le royaume des cieux. Parce que si Jésus n'avait pas commencé à nous donner l'exemple de l'humilité dans sa passion, jamais notre orgueilleuse raideur n'aurait voulu s'abaisser jusqu'à son humilité. Et donc cette aiguille représente pas simplement la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc la personne du Christ, mais cette aiguille représente aussi l'importance de la vertu d'humilité. La vertu d'humilité est la vertu préférée de notre Seigneur. Il aime surtout la vertu d'humilité parce que la vertu d'humilité ouvre le cœur, le sacré cœur de notre Seigneur. Rappelez-vous le publicain, le pharisien qui tous deux se présentent à l'entrée du sanctuaire. Eh bien, le pharisien, fier de lui-même, va ressortir sans avoir été pardonné, alors que le publicain, qui est plein d'humilité, justement, malgré ses péchés, ressort pardonné. Et c'est la même chose pour nous. Donc il faut demander cette grâce de la vertu d'humilité pour faire comme le chameau, enlever la charge de nos péchés et nous agenouiller pour pouvoir passer sous les fourches codines du monde en quelque sorte. Alors nous avançons avec la page 32. Donc j'essaie de vous lire tous ces textes qui sont splendides, surtout pour ceux qui écoutent les cours à partir de l'internet, mais en écoutant dans leur voiture, par exemple, ils conduisent, donc ils peuvent pas forcément lire le polycopier. C'est pour ça que je vous lis au moins en grande partie, même dans la totalité souvent, et en essayant de vous l'expliquer. Je tiens à conserver une simplicité de cours pour que les cours ne soient pas ouverts simplement qu'à des grands savants. Et moi-même, je ne suis pas du tout un grand savant. Et donc il faut aussi que je pratique cette vertu d'humilité en ne cherchant pas à trop compliquer ce cours. Si notre Seigneur s'exprime de la sorte, page 32 en haut, ce n'est pas pour que vous vous découragiez et que vous vous arrêtiez comme devant une impossibilité, mais afin qu'étant bien convaincu de la grandeur de l'entreprise, vous franchissiez cet obstacle en recourant à Dieu par la prière. Donc on voit bien cette nécessité de la vertu d'humilité qui est pratiquée non seulement par notre Seigneur Jésus-Christ mais par tous ceux qui l'approchent. Donc, tous ceux qui approchent notre Seigneur Jésus-Christ peuvent l'approcher justement à cause de cette humilité. S'ils n'ont pas l'humilité, ils restent dehors. On voit très bien par exemple chez Hérode, chez Pilate, chez Caïphe, eh bien ils ont été en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ mais ça ne servait à rien du tout parce que ils étaient orgueilleux, cet orgueil a coupé l'arrivée de la grâce. Donc Dieu n'a pas pu rentrer dans le cœur d'un Hérode, dans le cœur d'un Caïphe, dans le cœur d'un Pilate, précisément à cause de cet orgueil. L'orgueil ferme la porte. Donc il faut d'abord ouvrir la porte par la vertu d'humilité pour que la grâce du bon Dieu puisse passer. Alors ici, j'ai trouvé un passage assez beau des pères aussi, qui parle des nombreux proverbes qui existaient de leur temps, qui exprime cette impossibilité pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Donc il y a plusieurs expressions, certaines sont toujours utilisées dans la langue commune. Il est plus facile pour une tortue de dépasser un lièvre. Un loup doit d'abord épouser un agneau. Une sauterelle va ramener un bœuf. Une tortue va vaincre un aigle. La terre aura des ailes. Les rivières vont remonter vers les cimes. Il est plus facile de cacher un éléphant sous votre bras. Vous volerez d'abord sans ailes. Toutes ces phrases, évidemment, amènent une deuxième partie. C'est-à-dire, vous volerez d'abord sans ailes si vous espérez faire quelque chose sans avoir cette vertu d'humilité. Un scarabée fera plus facilement du miel qu'un pêcheur ne rentre au ciel sans avoir la vertu d'humilité. La mer produira plus aisément de la vigne, le ciel tombera d'abord, une femme se taira plus tôt. C'est pas très gentil pour les dames. Vous nourrirez avec du vent avant que d'obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, donc, c'est pour ça que dans le monde moderne, les mondes modernes ont tellement de mal à prier parce que le monde moderne vit dans un bruit constant. Moi, je me rends compte, à chaque fois que je prêche les exercices Saint-Ignace, il est parfois un petit peu difficile au début des exercices de mettre les gens qui suivent la retraite en silence, mais au bout d'un certain temps, ils apprécient. Ils apprécient, et même lorsqu'on rompt le silence au bout de 5 jours, eh bien, les gens presque souhaiterait un peu garder un peu plus ce silence pendant quelques heures de plus, oui, pour ne pas risquer de perdre d'un seul coup tous les bénéfices de la retraite. Donc plus d'explications encore, il y a beaucoup de richesse dans ce passage. Je vous ai dit qu'il y avait certains passages de l'Écriture sainte qui avaient été plus travaillés par les pères. Un homme riche, tout gonflé de ses richesses, sur le dos duquel pèsent de grands biens, est comparé à un chameau, et la porte étroite par laquelle nous devons passer pour entrer dans la vie, comparée au trou d'une aiguille, pour nous faire comprendre que les riches, gonflés d'orgueil et de dédain, seront incapables de se plier aux limites étroites imposées par le Christ sur son peuple. Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne après moi. Donc sans croix, eh bien, la croix, ça représente quoi? La croix, c'est l'humilité. La croix, c'est le vecteur de l'humilité. C'est par la croix que l'humanité arrive dans une âme. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut donner l'humilité à une âme. Qu'est-ce qu'il lui propose en premier lieu? C'est d'abord la croix. Parce que cette croix va permettre à l'âme de se préparer à recevoir cette vertu d'humilité. Devant la croix, si vous voulez, il y a deux réactions possibles, soit une réaction d'orgueil, une réaction de refus de la croix, de haine de la croix, qui est malheureusement ce qui se passe dans le monde moderne de plus en plus, soit au contraire, soit on refuse la croix, soit on tombe dans l'orgueil, soit on accepte la croix. Et cette croix permet l'infusion de la vertu d'humilité dans l'âme. Alors, d'autres explications plus mystiques cette fois-ci, ou allégoriques. Au quatrième paragraphe de la page 32, mystiquement, Isaïe a prophétisé que les chameaux de Madian et d'Épha, c'est-à-dire les riches, mettant de côté par la grâce de Dieu la bosse de leur orgueil, entreraient dans l'église par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire par le détroit de l'humilité de la loi évangélique. Oui, on retrouve toujours la même idée, l'humilité nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux, l'humilité nécessaire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ dès ici-bas. Donc, un texte de Saint Jérôme. Ici, votre mère Paola, de sainte mémoire, et votre frère Pamachias, qui sont passés par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire par le chemin étroit qui mène à la vie, qui avaient abandonné la voie large qui mène au Tartare, portaient les dons de Dieu, car les choses qui semblent impossibles aux hommes sont possibles avec Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit, il semble plus difficile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Encore une fois, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Un homme plein de lui-même peut se convertir, et avec la grâce du bon Dieu, faire une bonne confession générale, et à partir de cette confession générale, retrouver la grâce de Dieu, et à ce moment-là, s'humilier jour après jour, et retrouver l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est possible, de par la grâce du bon Dieu. Alors, allégoriquement, Saint Augustin, Saint Grégoire, par le mot chameau, comprennent le Christ, par celui d'aiguille, sa passion. J'ai déjà expliqué ça. Il serait donc plus facile pour le Christ de souffrir pour les amoureux de ce monde que pour eux de se convertir au Christ. Un chameau passe par le trou de l'aiguille quand notre Rédempteur entre par l'étroitesse de sa passion jusqu'à endurer la mort. La passion fut pour lui comme une aiguille parce qu'elle perçoit son corps sans pitié. Il est donc plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, car si le Christ ne nous avait pas d'abord enseigné par sa passion le modèle de l'humilité, jamais notre orgueilleuse rigidité ne se serait inclinée. Et rappelez-vous la formule utilisée par saint Rémy au baptême de Clovis: courbe la tête, fier sycambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Mais nous, c'est pareil. C'est pareil, il faut commencer par abandonner. Quand on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, la première condition, c'est d'abandonner notre volonté propre, au moins en partie, ou même en totalité pour un moine. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de mal à expliquer ça aux gens du monde. Les gens du monde pensent que les moines sont des gens qui sont esclaves. Donc, ils sont malheureux parce qu'ils sont esclaves. Ils ne peuvent plus s'acheter ce qu'ils veulent. Ils sont obligés d'obéir toute la journée. Et ils ne peuvent pas jouir des douceurs de l'amour féminin. Eh bien, ils ne comprennent pas que, finalement, les gens les plus heureux sur la terre sont ceux qui n'ont pas toutes ces tentations qui viennent des trois concupiscences. Et bien, donc un moine qui n'a pas la concupiscence, qui n'a pas les conséquences de la concupiscence de la chair, parce qu'il la protège par la chasteté, qui n'a pas les conséquences de la concupiscence des yeux, parce qu'il la protège par la vertu de pauvreté, qui n'a pas la concupiscence de l'orgueil, parce qu'il la protège par l'obéissance, eh bien, il n'est plus esclave de ses concupiscences. Et donc, n'étant plus esclave de ses concupiscences, il trouve la pleine liberté, donc la pleine joie de vivre. C'est ça que les vrais moines, qui sont à leur place dans une véritable vie religieuse, sont des gens toujours extrêmement heureux. Ils sourient énormément. Je me rappelle ces braves religieuses que j'ai connues, ces bons moines que j'ai connus dans ma vie, et dans ma vie de prêtre, même avant, eh bien, qui... amenés par leur sourire, par leur gentillesse, par leur humilité, par leur abandon des choses de ce monde, ils nous amenaient littéralement vers le bon Dieu. Donc vous voyez que pratiquement tous les pères ici expliquent avec les mêmes idées. Je répète la grande idée, donc l'aiguille c'est la... C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le chameau représente le corps humain, la nature humaine, qui est chargée de vices. Et donc, il faut pouvoir déposer tous ces bagages, déposer tous ces vices, avant de rentrer dans la cité de Jérusalem céleste, à savoir rentrer dans le paradis. Alors, avançons avec les versets 27 à 30 du chapitre 19 de saint Matthieu. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit: Nous voici que nous avons tout quitté et que nous avons suivi. Qu'y aura-t-il donc pour nous? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la régénération, le Fils de l'homme siégera sur le trône de sa gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais quiconque aura quitté sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses champs à cause de mon nom recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Voilà des phrases bien consolantes après les phrases des versets précédents qui étaient dures, bien exigeantes. Ces phrases-là sont très consolantes. Hein. Celui qui aura suivi notre Seigneur Jésus-Christ recevra de lui une récompense éternelle, le centuple, dès ici-bas, hein, et la vie éternelle de surcroît. Alors, il faut bien comprendre cela. Le bon Dieu n'a pas dit qu'il allait nous couvrir d'or et de pierreries, c'est pas ça du tout. Il va nous couvrir de ses grâces. Et encore une fois, de même qu'un moine qui est fidèle à ses trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance trouve la pleine liberté parce qu'il n'a plus la tentation constamment de suivre ses trois concupiscences, et bien de la même façon, un homme qui vit dans l'humilité, qui vit dans l'esprit des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et bien est un homme qui va trouver la paix. Alors il ne faut pas écouter non plus ceux qui vous disent que ce genre de conseils ne sont valables que pour les moines. C'est faux, parce que ces conseils sont aussi valables pour les gens du monde. Certes, les moines sont tenus à ces trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais nous, dans le monde, nous sommes tenus à l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Et n'oublions pas qu'il nous faut enseigner coûte que coûte ces trois amours, en quelque sorte, au bon Dieu, ben, parce que sinon, ben, nos enfants tiendront pas le coup. On ne juge pas l'enseignement des familles lorsque les enfants sont encore à la maison. On juge l'enseignement reçu par par les enfants qui venaient de leurs parents. On va juger cet enseignement reçu en voyant vivre ces enfants une fois qu'ils ont quitté le cocon familial, une fois qu'ils ont quitté le nid, ben on va voir comment ils vivent. C'est pour ça que je pose toujours cette question qui choque un peu quand je viens visiter une famille pour la première fois. En général, je rencontre ces gens-là toujours dans le salon, et là, il y a toutes les photos de famille. Je regarde un peu les photos de famille et les parents, tout fiers, me disent: voilà, monsieur l'abbé, le bon Dieu nous a donné 8 enfants, nous a donné 10 enfants, nous a donné 5 enfants. Bon, très bien, très bien. Et puis je pose toujours la même question, dès que la conversation est plus acceptable, si vous voulez, qu'il est plus facile, qu'il commence à nous faire un petit peu confiance, je pose toujours la même question. Je leur demande: mais sur ces 10 enfants, ou ces 8 enfants, ou ces 5 enfants que le bon Dieu vous a donné, combien ont conservé la foi? Et malheureusement, surtout dans les familles où il y a peu d'enfants, les enfants ont tous abandonné la foi catholique. Par contre, dans les familles nombreuses, j'ai remarqué, dans les familles de 10, 12, 15 enfants, la plupart des enfants conservent la foi. Parce que, pourquoi? Parce que dans ces familles, ben, l'esprit d'obéissance, l'esprit de charité, l'esprit de chasteté, l'esprit de pauvreté est beaucoup plus facilement présent, justement, parce que quand on a une douzaine d'enfants, à moins que le père soit un millionnaire, ce qui n'est en général pas le cas, quand on a une douzaine d'enfants, eh bien, on ne peut pas s'offrir des vacances dans des lieux très très mondains, on ne peut pas offrir des tas de cadeaux aux enfants, on ne peut pas faire tout ça, parce qu'il y a toutes ces bouches à nourrir. Et donc, par la force des choses, eh bien, les enfants n'auront pas toutes les tentations qu'ont peut-être les familles qui ont très peu d'enfants ou pas d'enfants du tout. De la même façon qu'un père de famille qui a 12 enfants, 12 bouches à nourrir à la maison, eh bien, ben, aura beaucoup moins de tentations de faire des bêtises, entre autres contre la concupiscence, en suivant la concupiscence de la chair. Il y aura beaucoup moins de tentations de faire ces bêtises parce qu'il est obligé de travailler énormément pour nourrir sa famille. Et quand il a terminé son travail au bureau, eh bien, il rentre tout de suite à la maison parce qu'il sait qu'il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Alors, voyons un petit peu ce que, après, ce que, comment les pères expliquent ces versets 27 à 30 que je viens de vous lire. Le Seigneur, le Sauveur, a demandé deux choses à ce riche, le riche homme de l'Évangile: donner aux pauvres tout ce qu'il avait et de le suivre. C'est pourquoi Saint-Pierre ajoute: et nous vous avons suivi. Il ne dit pas: pour vous qui avez quitté toute chose, car c'est ce qu'a fait le philosophe Cratès et beaucoup d'autres qui ont méprisé les richesses, mais pour vous qui m'avez suivi, ce qui est le caractère propre des apôtres et des vrais fidèles, et donc certains qu'ils partageront et sa royauté et sa gloire, et c'est cet honneur et cette gloire qui sont figurés ici par des trônes. Donc ce n'est pas suffisant de donner tout ce qu'on a. Il y a des philosophes anciens qui ont vécu dans une très grande pauvreté. Ici, ils citent l'exemple de Cratès, que je ne connais pas, mais il y a plusieurs philosophes grecs qui vivaient comme ça, dans une grande pauvreté. Rappelez-vous Diogène qui vivait dans son tonneau. Bon, mais tout ça, c'est rien. Ça sert à quoi de vivre dans un tonneau, vivre dans une grande pauvreté, si il manque justement ce qui doit suivre la pauvreté? C'est ce que dit Saint-Pierre: nous avons tout donné. Mais nous avons tout donné, bien sûr, nous avons tout quitté, bien sûr, mais nous avons suivi notre Seigneur. Et la grandeur de Saint-Pierre, c'est pas d'avoir tout donné, c'est d'avoir suivi notre Seigneur après avoir tout donné. Alors que Diogène et les philosophes de son temps, eh bien, ont peut-être tout donné, mais ils suivent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en général des païens. Donc il leur manque l'essentiel. « Aussi, n'est-ce pas sans condition que le Sauveur fait cette promesse à ses disciples, car il ne dit pas d'une manière absolue vous serez assis, mais il fait précéder ses paroles de celle-ci, vous qui m'avez suivi. Parole qui excluait Judas et qui attirait à lui ceux qui devaient plus tard marcher à sa suite, car ce n'était ni aux disciples seuls ni à Judas qui s'en était déjà rendu indigne que notre Seigneur Jésus-Christ les adressait. Donc Judas, malheureusement, a renié son maître, vraisemblablement d'après les pères, et c'est aussi dans l'évangile, à cause de son trop grand amour de l'argent. Il était devenu un avare. Et au lieu d'utiliser les dons dont il avait la charge en tant que trésorier des apôtres, eh bien, il a gardé ses dons pour lui. Et du coup, il ne pouvait pas nourrir suffisamment de pauvres, alors que mon Dieu voulait qu'on utilise ses dons, bien sûr, pour s'occuper de payer les factures courantes pour la nourriture des 12 apôtres. Il y avait quand même bien du monde à nourrir. Mais justement, il manquait quelque chose, c'est Judas, il manquait cet esprit de charité, cet esprit d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été détruit en lui par l'amour de l'argent. Alors ici, les pères expliquent, c'est un saint Augustin, je crois, donc il explique le symbolisme des chiffres. Dans le verset précédent, donc il était dit, dans le verset 28, pardon, il est dit que les apôtres viendront sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà ce que disent les pères. Nous ne devons pas croire toutefois que ces 12 hommes seront les seuls qui jugeront avec notre Seigneur, parce qu'il est question des 12 trônes sur lesquels ils seront assis. Le nombre 12 représente ici la multitude de tous ceux qui seront associés à ce jugement, parce qu'il est composé de deux parties du nombre 7 qui signifie souvent l'universalité des choses. En effet, ces deux parties, 3 ou 4, multipliées l'une par l'autre, donnent le nombre 12. Et donc ce nombre 12 représente en quelque sorte la totalité, la multitude de tous ceux qui sont associés à ce jugement. Donc tout homme, en effet, qui pressé par l'aiguillon de l'amour divin aura sacrifié tout ce qu'il possédait, parviendra au fait de la puissance judiciaire et exercera les fonctions de juge avec le juge souverain, parce qu'il a embrassé ici-bas les rudes privations de la pauvreté volontaire. Pourquoi ? Parce que les moines et ceux qui sont sous vœu de pauvreté seront des ministres beaucoup plus personnels de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier pour ceux qui ont tout donné, y compris leur volonté propre. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, ce qui est difficile à donner, ce n'est pas tant les choses matérielles que la volonté propre. Celui qui a fait don de sa volonté propre à notre Seigneur Jésus-Christ est sûr d'aller au ciel, parce qu'à ce moment, il ne reste plus rien pour lui. Notre Seigneur Jésus-Christ peut vraiment mettre ce qu'il désire, ce qu'il veut dans l'âme de cette personne. Alors, les pères expliquent un peu plus à propos de ce chiffre 12. Les apôtres furent assis sur leurs 12 trônes, c'est-à-dire dans le cœur de tous les chrétiens. Car tout chrétien qui reçoit la parole de Pierre devient le siège de Pierre et il en est assis de tous les autres apôtres. Or, les apôtres sont assis sur 12 trônes distincts, suivant la différence de disposition des âmes et des cœurs que Dieu seul connaît. Donc, à partir du moment où on suit notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on va devenir, nous aussi, des participants, en quelque sorte, à ce jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu, au jugement général, surtout jugera les mauvais en comparaison avec les actions faites par les bons. Le peuple chrétien est divisé en 12 tribus, comme le peuple juif, de manière que certaines âmes appartiennent à la tribu de Ruben, d'autres âmes aux autres tribus, suivant la différence de leurs vertus. En effet, toutes les vertus ne sont pas au même degré dans tous les hommes, mais telle excelle dans celle-ci et telle autre dans celle-là. Les apôtres jugeront donc les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif, sur ce chef que leur prédication a été reçue par toutes les nations. Donc ce n'est pas simplement le peuple juif qui va être jugé là, mais tous les peuples de l'humanité. Donc l'universalité des chrétiens est représentée par ces 12 trônes des apôtres. Mais l'unique trône de Jésus-Christ, un seul trône de Jésus-Christ qui juge comme souverain juge, et je dirais 12 juges auxiliaires qui ont jugé à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont les apôtres. En effet, toutes les vertus sont comme le siège unique de Jésus-Christ, car il est le seul qui soit également parfait dans toutes les vertus. Parmi les apôtres, chacun d'eux excelle dans une vertu spéciale. Pierre dans la foi, Jean dans l'innocence. Pierre se repose donc dans la foi comme sur un trône, Jean dans l'innocence comme un autre trône, ainsi les autres apôtres. Alors, la phrase importante des pères, celui qui aura abandonné pour Jésus-Christ les biens temporels recevra les biens spirituels qui seront au premier en valeur et en mérite ce que le nombre 100 comparé à un nombre est comparé à un nombre de beaucoup inférieur. Donc, à partir du moment où on suit notre Seigneur Jésus-Christ, on met la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre volonté en quelque sorte est éclipsée par celle de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient prendre la place. C'est pour ça qu'un religieux qui obéit à ses supérieurs, pardon, soit toujours dans la paix. Alors, une objection qu'on entend très souvent, mais c'est quand même très dangereux, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire religieux, par exemple, il va obéir de façon aveugle. Et donc, si le supérieur lui demande de faire des choses très graves, il va le faire parce qu'il est tenu par l'obéissance. Attention, il est tenu par l'obéissance, mais il y a des obéissances plus grandes au-dessus de l'obéissance qui est due au supérieur direct. L'obéissance à Dieu est bien plus importante. Et donc, les supérieurs directs des religieux ont le droit de donner des ordres que dans le cadre protégé par les constitutions de l'ordre à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas tout enlever, ils ne peuvent pas tout changer, ils ne peuvent pas demander quelque chose qui va contre la loi naturelle. Parce que si un supérieur religieux demandait à ses inférieurs quelque chose qui allait contre la loi naturelle, bien évidemment, il n'a pas le droit de suivre. Donc, quand on fait un vœu d'obéissance dans une fraternité, dans une maison religieuse, on fait un vœu d'obéissance en suivant les règles, les régulations, les lois de ce couvent. Alors, d'autres explications des pères. Dès que le chrétien a quitté ses frères selon la chair, il trouvera un grand nombre de frères selon la foi. Il aura pour père tous les évêques et les prêtres, et pour enfants tous ceux qui sont dans l'âge de l'enfance. Donc, quand un religieux quitte sa propre famille pour rentrer dans une vie religieuse quelconque, il y va trouver une nouvelle famille. Il va trouver une nouvelle famille avec un nouveau père, des nouveaux frères dans la famille religieuse dans laquelle il veut rentrer. Il aura cet homme pour frère les anges, pour sœurs toutes les vierges qui ont consacré leur virginité au Seigneur, aussi bien celles qui vivent encore sur la terre que celles qui jouissent déjà dans le ciel de la vie éternelle. Les champs et les nations, ce sont les demeures multipliées qui sont préparées dans le repos du paradis, dans la cité de Dieu. Et ce qui est au-dessus de toutes ces récompenses, il recevra la vie éternelle. C'est donc pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui aura tout quitté, sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses champs à cause de mon nom, recevra le centuple ici-bas et possédera la vie éternelle. Et dès ici-bas, il recevra déjà le centuple dans le sens que il a quitté quelques frères et sœurs, il va retrouver dans la maison religieuse, par exemple, une multitude de frères. Dans le Moyen-Âge, par exemple, lorsque le sol français était couvert d'un blanc manteau de monastères, eh bien, ces monastères étaient très importants et avaient beaucoup de frères. Il y avait souvent des monastères avec 200, 300 frères. Et donc, quand quelqu'un quittait la famille de son sang pour rentrer dans un monastère, il allait se retrouver d'un seul coup avec 200, 300 frères. Ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est ce que disent les pères ici, quatre paragraphes avant le bas de la page 33. Le pauvre en esprit, qui est souvent considéré comme un indigent, est en fait un riche, car toutes les choses qu'il pourrait avoir, espérer, obtenir pendant toute sa vie, soit le monde entier, il a abandonné pour l'amour du Christ afin de donner son cœur tout entier à Dieu. C'est là un acte héroïque de pauvreté, donc de charité, de religion, par lequel un homme s'offre lui-même comme un sacrifice à Dieu, devenant un holocauste vivant et permanent. Plus il est méprisé de ce monde à cause de sa grande humilité, plus il grandira sur ce trône que Dieu lui a préparé. Et à notre gloire au ciel sera une directe conséquence du degré d'humilité que nous avons eu sur la terre. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ parle avec tant d'admiration de c'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Certes, il ne les place pas au même niveau que les commandements, dans le sens qu'il ne les propose qu'à ceux qui pensent à la vie religieuse. Mais même ceux qui ne sont pas dans la vie religieuse, qui veulent suivre notre Seigneur Jésus-Christ aussi bien que possible dans la vie du monde, par exemple dans la vie mariée, doivent garder l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. L'esprit de pauvreté, ils ne s'encombreront pas toute une série de choses matérielles, en ne couvrant pas leurs enfants de cadeaux à longueur de journée. L'esprit de chasteté, en pratiquant la vertu de pureté, en aidant les jeunes filles, surtout dans la famille, à se couvrir correctement, à s'habiller normalement, pour qu'elles ne soient pas des occasions de péché pour les autres. Et l'esprit d'obéissance, justement, surtout pour les épouses, en voyant l'autorité de Dieu derrière l'autorité de leur mari. N'oublions pas qu'une des conséquences du péché originel pour les femmes, c'est justement de se retrouver sous l'autorité du mari. Quant au mari, il doit aimer son épouse, aimer ses enfants, comme le Christ a aimé son Église. Alors, le Père explique maintenant ce terme utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme siégera sur le trône de sa gloire, et vous aussi, vous siégerez sur 12 trônes. Alors, qu'est-ce que représente ce trône en bas de la page 33? Bon, voilà les explications données par les pères. Cette expression, je siégerai sur un trône, implique à la fois la sécurité de ceux qui sont devenus pauvres à cause de l'évangile, le privilège de juger, puisque le trône c'est le trône du juge, c'est le trône de celui qui a l'autorité politique, le privilège donc de juger et donc d'une dignité éminente supérieure à tous les autres. La place la plus proche du Christ et la plus grande union avec lui. Enfin, une richesse de grâce, de bonheur et de gloire, car en tant que prince du royaume du ciel, vous aurez le droit de juger pour admettre au paradis ceux qui en sont dignes et d'exclure ceux qui en sont indignes. À cause de notre degré de charité au ciel, nous participerons en quelque sorte aux fonctions législative de notre Seigneur Jésus-Christ qui va juger les vivants et juger les morts. Et donc les pères vont jusqu'à dire que les élus du ciel vont participer, pas simplement les 12 apôtres, mais que les élus du ciel vont participer à ce jugement des âmes. En quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ va montrer les élus du ciel comme l'exemple à suivre. Il va pouvoir juger les âmes en fonction de cette correspondance avec ces exemples à suivre. Il va pouvoir dire aux gens qui se peinent que la vie catholique était trop dure, et notre Seigneur va pouvoir leur montrer tous ces élus au ciel qui sont entrés au ciel malgré les difficultés de la vie catholique. Donc, moralement parlant, dans ce plan personnel, tropologiquement, par ce pouvoir judiciaire, il faut comprendre que le Christ a promis à ceux qui abandonnent tout pour lui un empire sur les âmes par lequel ils dirigeront les cœurs et les esprits des hommes, et un trône dans son royaume où s'assieront comme des rois pour rendre toutes choses obéissantes à la loi du Christ. Donc ils participeront, ils seront en quelque sorte dans la splendeur du bon Dieu d'une certaine façon, et en quelque sorte à cause de cette splendeur du bon Dieu, ils vont participer au pouvoir législatif de notre Seigneur Jésus-Christ, au pouvoir judiciaire, au pouvoir coercitif de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, un religieux, disent les pères, qui a quitté la maison de son père pour le Christ, trouvera une centaine de collèges et de monastères, grands et nobles, pour le recevoir avec une tendresse maternelle. Et celui qui a abandonné un champ pour le Christ, trouvera des centaines de champs, des adorateurs du Christ, où il sera nourri sans qu'il ait à travailler mais cultiver son propre champ. Donc même ici-bas, on trouve une aide matérielle, je dirais. C'est pour ça que les prêtres, si vous voulez, j'en sais quelque chose, les prêtres sont nourris par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire des bienfaiteurs que le bon Dieu va susciter. Et je ne dis pas qu'on vit sans vie sur l'or, mais Dieu s'occupe de ses prêtres, c'est clair et net. Il ne laisse pas ses prêtres mourir de faim. Alors voyons la page 34 maintenant, voir si on peut terminer peut-être ce chapitre 19. En bas, la page 34. Donc les pères de l'Église continuent ces comparaisons. Donc pour un frère abandonné, le religieux trouvera de nombreux chrétiens qui le chériront avec un fraternel amour en s'attachant à lui par un lien doux et spirituel. Moi, je m'en suis bien rendu compte dans les difficultés missionnaires, par exemple, en arrivant dans des pays dont je ne parlais pas la langue, des pays dont je ne connaissais pas les coutumes, mais comment j'ai été accueilli avec un grand degré de charité par des gens qui voyaient vraiment en moi notre Seigneur Jésus-Christ et qui m'acceptaient comme si j'étais notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui arrivait, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Oui, c'est là où on voit que le prêtre est un autre Christ, il agit en personne du Christ, in persona Christi. Donc pour une sœur, il aura de nombreuses compagnes qui l'aimeront chastement et s'occuperont de lui comme un frère. Au lieu d'un père, de nombreux vieillards l'aimeront comme un fils. Pour une mère, de vénérables matrones veilleront sur lui avec un soin maternel. À la place d'une épouse, il en trouvera une centaine, unie à lui par de chastes liens spirituels, prête à le veiller pendant la maladie avec autant d'amour que si elles étaient sa véritable épouse selon la chair. Enfin, au lieu d'un seul fils ou fille, il aura d'innombrables enfants le révérant comme leur père, suivant sa claire doctrine et ses conseils, et son esprit en tirera un plus grand plaisir que s'ils avaient été ses propres enfants. On voit très bien comment le bon Dieu suscite autour de nous des bienfaiteurs, suscite autour de nous des gens pour nous nourrir. J'ai vu que la façon, par exemple, dont on a toujours été nourri par les gens autour de nous qui très facilement viennent donner à la communauté de quoi se nourrir pour être sûr que la communauté ne meure pas de faim. Bon, quand on est prêtre tout seul, comme c'est le cas pour moi maintenant, c'est un peu plus difficile, c'est vrai. Et j'ai oublié d'aller chercher souvent dans mon congélateur ce qu'il faut, pas pour faire les cuisines, parce que j'y connais rien, mais pour manger. Mais le bon Dieu ne nous abandonne pas. Il donne les dons dont nous avons besoin pour survivre, parce qu'il n'oublie pas ses enfants. Donc, il y a Dieu pour héritage et le possesseur de toute la nature. Au lieu de terre, il est suffisant pour lui-même, avec de bons fruits qui ne peuvent périr. Au lieu de maison, il aura pour lui l'habitation de Dieu, son temple, et rien ne peut être plus précieux. Y a-t-il chose plus précieuse que Dieu? C'est l'héritage qu'aucun héritage de cette terre ne peut égaler. Y a-t-il lieu plus magnifique que le ciel, bénédiction plus grande que la possession de Dieu? Et ça, c'est l'application, si vous voulez, de la parabole du semeur. Le semeur a semé du grain qui est tombé dans le bon champ, et là, tout de suite, ça va donner du fruit. 60%, à 30%, 60%, même à 100%. Donc, celui qui se donne à notre Seigneur Jésus-Christ, il donne la graine de sa volonté propre, il va recevoir du 30%, du 60% ou du 100%. On reçoit beaucoup plus qu'on a donné. La plus belle façon, certainement, d'être heureux dans la vie de tous les jours, c'est de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. J'en sais quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croix, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais le bon Dieu s'occupe de nous, ça c'est sûr. Alors, d'autres comparaisons encore des pères, en bas de cette page 34. Au lieu de la perturbation, du danger et des guerres, vous posséderez le calme perpétuel de l'esprit. Regardez tous les soucis des hommes politiques, tous les soucis des gens qui ont beaucoup, beaucoup de choses matérielles. Ils sont toujours dans le trouble, toujours dans la crainte de tout perdre. Mais au contraire, nous qui suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce calme perpétuel de l'esprit, car nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ s'occupera de ses enfants. Au lieu des tourments, de l'anxiété, des distractions, le repos et la sécurité. Le repos de la sécurité, pardon. Pour la tristesse sans fruit de ce monde, vous aurez le fruit de la souffrance par le salut. Pour la vanité et la joie mondaine et la richesse des plaisirs spirituels, vous recevrez une récompense au centuple. Au lieu des choses transitoires, vous aurez la plus grande stabilité. Pour des choses sans valeur, des choses excellentes, des grandes choses à la place des petites, les célestes pour celles de la terre, les divines pour les humaines, des choses éternelles à la place de celui, de celles d'un moment. Je crois que c'est Saint Pierre d'Alcantara qui était apparu à Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole. Après sa mort, il avait fait d'énormes pénitences dans sa vie tous les jours. Il eut apparu dans toute la gloire du ciel en lui disant « Ô bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense !» Voyez, quand on aime les hommes, on est toujours un peu déçu. Quand on aime le bon Dieu, on n'est jamais déçu parce que Dieu est parfait. Quand on gagne des choses terrestres, on a toujours peur de tout perdre. Quand on gagne des choses célestes, on est sûr de jamais les perdre. Donc on suit notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette façon de parler, le Christ nous dit que c'est une chose difficile que d'atteindre la vie éternelle. Par la seule observance des préceptes sont gardés également les conseils évangéliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut justement que les trois conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance soient là pour mettre en quelque sorte la petite goutte d'huile dans les rouages des 10 commandements. Une certaine sécheresse dans les 10 commandements. Et donc si on rajoute à ces 10 commandements les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et bien c'est comme la petite goutte d'huile qui tombe entre les engrenages de la grosse machine et qui permet au moteur de fonctionner sans trop couiner. Vous voyez, c'est pour cela que même les gens du monde doivent garder au moins en partie l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. C'est pas parce que vous êtes marié, vous pouvez faire ce que vous voulez en matière de pureté. C'est pas parce que vous vivez dans vous, c'est pas parce que vous avez des richesses que vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. Le bon Dieu vous a donné un cœur, le bon Dieu vous a donné une intelligence, le bon Dieu vous a donné une volonté, et il vous a donné tout ça avec un mode d'emploi. Donc même les gens du monde sont tenus par cet esprit de pauvreté, cet esprit de chasteté, cet esprit d'obéissance. Au moins pour les choses surnaturelles, bon, il y a une certaine obéissance à avoir au bon Dieu. Et même les chefs de famille se doivent d'apprendre à obéir à la loi divine. Garder seulement l'observance des préceptes, c'est-à-dire des 10 commandements de Dieu, est ardu sans garder en même temps les conseils évangéliques. Il est difficile de garder tous les commandements de Dieu sans observer les conseils, surtout celui de la pauvreté. Donc plus on a les 3 conseils évangéliques dans notre âme, plus il est facile pour nous de suivre les dix commandements de Dieu. Car le Christ a déclaré, donc c'est le verset 23, je vais vous retrouver tout de suite. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc le Christ a déclaré ainsi qu'il est difficile, voire impossible, pour un homme riche d'être sauvé, dans le sens que justement cet homme riche manque cette goutte d'huile pour faire marcher la machine correctement. Donc il n'y aura pas l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance qui est nécessaire pour tout le monde. Les 3 vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance ne sont pas nécessaires pour tout le monde, c'est simplement pour les moines, mais l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, lui, est absolument indispensable pour toute famille catholique. Alors nous avons quand même pas mal avancé aujourd'hui de grande science. Alors nous en sommes donc à la page 35 maintenant. Et la prochaine fois, si Dieu veut, eh bien nous commencerons le chapitre 20 de Saint Matthieu. Alors, certaines personnes me posent la question parfois de savoir pourquoi je mets en avance certains cours soit les cours d'exégèse ou sur la théologie de saint Thomas d'Aquin ou les sermons, tout simplement parce que ces préparations de cours me prennent beaucoup de temps, et de mettre ces cours aussi, d'enregistrer ces cours prend du temps, et que je suis obligé de rationner mon temps, notamment en ce moment où j'ai recommencé à prêcher des retraites, donc une fois par mois souvent. Eh bien, la semaine où je prêche les retraites, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, et donc il faut que je me sois avancé pour pouvoir donner de la nourriture spirituelle à tous mes enfants spirituels, en quelque sorte, qui vont sur le site pour trouver cette nourriture spirituelle. Parce que je préfère être en avance qu'en retard, sinon je vais être en retard et je ne pourrai pas vous donner ces cours à temps, et aussi les sermons à temps pour les dimanches. Et donc je préfère qu'ils y soient en avance. Alors, soyez pas étonnés si parfois je m'avance, quand je sais, par exemple, là, dans 3 semaines, 3 semaines, je vais être pris par des gens que je dois aller voir, une retraite à prêcher, des amis australiens qui viennent me visiter, dont il va falloir que je m'occupe. Eh bien, ça prend du temps, et eh bien, je suis bien obligé de faire ces cours à l'avance et les mettre en avance. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.